en gagnant mon pain, cinquième partie. Je résolus de me livrer à la chasse des oiseaux chanteurs. Je me disais que ce serait un bon gagne-pain. Je les attraperais, grand-mère les vendrait. J'achetais un filet, un cercle, un piège, je fabriquais des cages, et me voilà, à l'aube, tapis dans un ravin parmi les broussailles. Grand-mère, munie d'un sac et d'un panier, parcourt les bois et cherche les derniers champignons, les baies et les noix. Le soleil de septembre, encore là, vient à peine de se lever. Tantôt ses rayons blancs fondent dans les nuages, tantôt ils tombent sur moi, en éventail d'argent. Au fond du ravin, la pénombre règne encore. Un brouillard blanchâtre s'en élève. Le flanc argileux et abrupt est sombre et nu. L'autre côté, en pente plus douce, est couvert d'herbes jaunies, d'épaisses broussailles au ton roux. Un vent frais arrache les feuilles et les sème dans le ravin. Tout en bas, dans les buissons, chantent les chardonnerets. J'entrevois, parmi les hautes herbes, leurs têtes aux couleurs écarlates. Autour de moi s'affairent les mésanges curieuses, gonflant drôlement leurs joues blanches. Elles sont en rumeur et s'agitent, telles les jeunes bourgeoises de Cunavine au jour de fête. Prestes, intelligentes, méchantes, elles veulent tout savoir, tout toucher, et l'une après l'autre, elles tombent dans le piège. Elles font pitié à voir quand elles se débattent, mais pour moi, l'affaire est sérieuse, il s'agit d'argent. J'introduis les oiseaux dans les cages dans le sac, et l'obscurité rend les oiseaux silencieux. Une bande de pinsons s'est posée sur un buisson d'aubépine. Ils sont ivres de soleil et gazouillent follement. On dirait des écoliers espiègles. Un laneret avide et gros a oublié de s'enfuir. Posé sur une branche, il lisse du bec les plumes de ses ailes et ses yeux noirs examinent attentivement ce qu'il trouve. Une alouette soudain s'élève, prend un bourdon au vol, le fixe avec précaution sur une épine et s'immobilise de nouveau, en tournant de tous côtés sa petite tête grise et futée. Sans bruit, passe le bec croisé, oiseau de bon augure, l'objet de mes rêves les plus ardents. Que j'aimerais à l'attraper. Un bouvreuil qui a abandonné ses camarades se cache dans un aune rouge, important comme un général. Il pousse de temps à autre un cri de colère et secoue son bec noir. Plus le soleil s'élève, plus les oiseaux sont nombreux, et plus leur gazouillement est animé. Le ravin se remplit tout entier de musique. La note dominante, c'est le bruissement continuel des buissons frôlés par le vent. Les voix espiègles des oiseaux ne parviennent pas à étouffer cette rumeur d'une douceur mélancolique et paisible. Le chant d'adieu de l'été. Elle me chuchote des paroles particulières qui harmonieusement s'unissent les unes aux autres pour former une chanson. Et en même temps, involontairement, ma mémoire ressuscite les images du passé. De plus haut, je ne sais d'où, grand-mère m'appelle. « Où es-tu ?» Elle est assise au haut de la pente. Sur l'herbe, elle a étendu du linge et elle y a disposé du pain, des concombres, des radis et des pommes. Et au milieu de toutes ces bonnes choses, trône et scintille au soleil une très jolie petite carafe à facettes, avec un bouchon qui représente la tête de Napoléon. Le flacon est rempli d'eau-de-vie de genièvre. Ah, que nous sommes bien, mon Dieu ! S'exclame grand-mère reconnaissante. Moi, j'ai composé une poésie. Vraiment ? Dis-la-moi ! Je lui raconte quelque chose qui ressemble à des vers. L'hiver se rapproche, je le vois bien. Adieu, mon beau petit soleil d'été. Mais sans m'écouter jusqu'au bout, elle m'interrompt. On a déjà fait une poésie pareille, seulement elle est plus jolie. et elle se met à scander. Hélas, le soleil d'été s'en va, dans les nuits sombres, au-delà des forêts lointaines. Hélas, je reste seule, toute seule. Où sont mes joies du printemps? Quand je sors le matin sur la grande route, je me rappelle mes promenades de mai. Les champs dépouillés ont l'air lugubres. C'est là que j'ai perdu ma jeunesse. Ah, mes amis, mes chers amis, dès que tombera la première neige, prenez mon cœur dans ma blanche poitrine, enterrez mon cœur dans la neige. Mon amour-propre d'auteur n'est nullement blessé. La poésie me plaît beaucoup, et la jeune fille me fait pitié. Voilà comme la douleur s'exprime, tu comprends? C'est une jeune fille qui a composé ces vers. Elle s'était promenée au printemps avec son amie, et l'hiver venu, elle fut abandonnée, alors elle a souffert. Ce qu'on n'éprouve pas soi-même, on ne peut l'exprimer ni si bien, ni si exactement. Cette délaissée, tu vois quelle poésie elle a su faire? Lorsque grand-mère vendit pour la première fois des oiseaux et qu'elle en obtint 40 kopecks, elle se montra stupéfaite. « Voyez-vous ça? Je pensais que c'était une amusette, un jeu d'enfant, et voilà que ça rapporte. »« Tu les as vendus trop bon marché. Crois-tu? Vraiment ?» Au jour de marché, elle en vendait pour 1 rouble et davantage. Elle n'en revenait pas de son étonnement. Quelle somme on pouvait gagner avec des bagatelles! Y comprends-tu quelque chose? Une femme doit laver du linge ou frotter les planchers pour 1/4 rouble par jour. Et nous, nous gagnons 1 rouble. Ce n'est pas bien. Et c'est mal aussi d'enfermer des oiseaux dans des cages. Ne le fais plus, Alexis, me disait-elle. Mais la chasse aux oiseaux me passionnait. Elle me rendait indépendant, sans gêner personne, sauf les pauvres oiseaux. Je me fabriquais de bons filets. En conversant avec de vieux oiseleurs, j'appris beaucoup de choses. Je m'en allais tout seul jusqu'à 30 kilomètres de chez nous, sur les bords de la Volga, à la forêt de Kstor, où l'on trouvait dans les sapins des becs croisés et des mésanges d'Apollon, appréciés des connaisseurs. Des oiseaux blancs à longue queue, d'une rare beauté. Parfois, je partais le soir, et je rôdais toute la nuit sur la route de Kazan, couverte d'une boue épaisse quand tombaient les pluies d'automne. Je porte au dos un sac de toile cirée où sont mes pièges et mes cages, avec l'appât nécessaire. À la main, j'ai un solide gourdin de noyer. Il fait froid, et j'ai peur dans les ténèbres automnales. Bien peur. De chaque côté de la route, des vieux bouleaux frappés par la foudre étendent sur ma tête leurs branches mouillées. À gauche, au pied de la montagne et sur le fleuve obscur, tremblotent quelques rares clartés au mât des derniers bateaux, qui semblent s'en aller vers un précipice sans fond. Les hélices grondent en battant l'eau. Les sirènes mugissent. De la terre, couleur d'airain, émergent les isbas en bordure de la route. Des chiens affamés et hargneux accourent. Le gardien de nuit agite sa crécelle et crie d'une voix craintive « Qui va là? Qu'est-ce que le diable m'envoie ?» J'avais grand-peur qu'on ne me prît mes pièges et j'emportais toujours des pièces de cuivre pour les gardiens. Au village de Fokino, je me liais d'amitié avec le garde qui geignait sans cesse. C'est encore toi? Ah, tu n'as peur de rien. Tu navigues de nuit comme de jour, hein? Il s'appelait Nifonte. C'était un petit homme à cheveux gris qui ressemblait à un saint. Souvent, il sortait de sa blouse une pomme, un radis, une poignée de pois et me les donnait en disant « Tiens, mon petit, je t'en fais cadeau. Régale-toi. » Et il m'accompagnait jusqu'à la barrière. « Marche, et que Dieu soit avec toi !» J'arrivais à la forêt vers l'aube. Je plaçais mes pièges, je disposais les appâts, puis j'allais m'allonger à l'orée, en attendant la venue du jour. Tout était silencieux, comme figé dans un profond sommeil d'automne. À travers la pénombre grisâtre, j'entrevoyais à peine les vastes prés au pied des monts. Ils étaient coupés par la Volga, mais se prolongeaient au-delà du fleuve et se fondaient, se dispersaient dans les brouillards. Très loin, derrière les forêts qui bordaient les prés, le soleil blanc se levait sans hâte. Aux crêtes noires des bois s'allumaient des clartés et le paysage s'animait bizarrement. Le brouillard montait avec une rapidité croissante au-dessus des prés. Il s'argentait aux premiers rayons et en même temps dévoilait des buissons, des arbres, des meules de foin. Les prés paraissaient fondre sous la chaleur du soleil et ils s'étendent, balayés par les rayons fauves et dorés. Le soleil touche l'eau dormante près du rivage et il semble que le fleuve tout entier se précipite et s'entasse du côté où le soleil s'est jeté. Il s'élève toujours plus haut à l'horizon. Joyeux, il bénit et réchauffe la terre dénudée et transie. Et la terre l'encense avec les doux parfums de l'automne. L'air transparent fait paraître la campagne immense en l'élargissant à l'infini. Tout semble voguer vers les lointains et vous inciter à partir aux extrémités bleues du monde. J'ai vu, je ne sais combien de fois, le soleil se lever à cet endroit, et chaque fois un monde nouveau, d'une beauté toujours nouvelle, apparaissait à mes yeux. J'aime le soleil d'un amour spécial. J'aime son nom, aux syllabes si douces, son harmonie mystérieuse. Les yeux fermés, j'aime à offrir mon visage à ses rayons ardents et les saisir sur la paume de la main quand ils passent comme une épée à travers la fente d'une palissade ou entre des branches. Lorsque le soleil se lève sur les prés, d'instinct, sans le vouloir, je souris de joie. Au-dessus de moi, bruit la forêt de conifères. Elle secoue de ses pattes vertes les gouttes de rosée. À l'ombre, sous les arbres, sur les feuilles découpées des fougères, la gelée matinale étincelle comme du brocart d'argent. L'herbe jaunie est couchée par les pluies, les brins gisent, immobiles, sur le sol. Mais quand un rayon lumineux les frôle, on perçoit un léger frémissement, peut-être le dernier effort vers la vie. Les oiseaux se sont réveillés. Les mésanges des bois, grises, tombent de branche en branche comme des pelotes de duvet. Les gros becs de feu déchiquettent des vers à la cime des sapins. À l'extrémité d'une branche se balance une blanche mésange d'Apollon. Ses longues ailes battent. De son œil noir, pareil à une perle, elle louche d'un air méfiant sur le filet que j'ai tendu. Et tout d'un coup, j'entends que la forêt entière, si grave, si pensive pendant un moment, est pleine de gazouillis, bourdonnante du remue-ménage des êtres vivants les plus purs qui soient au monde. C'est à leur image que l'homme, le père de la beauté terrestre, a créé, pour se consoler, les elfes, les chérubins, les séraphins et toute l'armée des anges. J'ai un peu honte d'attraper ces oiseaux et de les mettre en cage. J'aime mieux les regarder. Mais la passion de la chasse et le désir de gagner de l'argent étouffent ma pitié. Les oiseaux m'amusent par leurs ruses. Une mésange bleue, après avoir étudié le piège en détail et avec beaucoup d'attention, a compris ce qui la menaçait, et, pénétrant de côté, elle s'empare adroitement et sans danger des graines éparses entre les bâtonnets du piège. Les mésanges sont très intelligentes, mais elles sont trop curieuses, et c'est ce qui les perd. Les bouvreuils, si importants, mais un peu niais, se font prendre au piège par bandes, comme des bourgeois cossus à l'église. Quand on les attrape, ils ont l'air très surpris, ils roulent des yeux et essayent de pincer. Le bec croisé s'en va au piège tranquillement, gravement. La citelle, oiseau inconnu ailleurs, qui ne ressemble à nul autre, reste longtemps assise devant le piège, remuant son long bec et s'appuyant sur sa grosse queue. Elle court sur les troncs des arbres, comme les pies, accompagnant toujours les mésanges. Chez cet oiselet couleur de fumée, il y a quelque chose d'inquiétant. Il vit solitaire. On dirait qu'il n'aime personne et que personne ne l'aime. Comme la pie, il a du plaisir à voler et à cacher de menus objets brillants. Vers midi, ma chasse est finie et je rentre par les prés et les bois. Si je suivais la grande route à travers les villages, les gamins, petits ou grands, me prendraient mes cages, déchireraient mes filets et casseraient mes pièges. J'en ai du reste fait l'expérience. Je rentrai le soir, harassé, affamé, mais il me semblait que j'avais grandi pendant la journée, que j'avais appris quelque chose de nouveau, que j'étais devenu plus fort. Cette vigueur me permettait de supporter les sarcasmes de grand-père. Il s'en aperçut, changea de ton et me parla avec gravité. « Laisse donc toutes ces futilités. Jamais personne n'est devenu quelque chose en vendant des oiseaux, je le sais bien. Choisis-toi une place pour y développer toute ton intelligence. On ne vit pas pour des enfantillages. L'homme est une graine divine. Il doit devenir épi et fructifier. L'homme, c'est comme un rouble. Bien placé, il en vaut trois. Crois-tu que la vie soit facile? Non, loin de là. Le monde est semblable à une nuit obscure. Chacun doit s'éclairer soi-même. Nous n'avons que 10 doigts, et nous voulons prendre plus que les mains ne peuvent contenir. Il faut faire preuve de force ou de ruse quand on n'a pas de force. Celui qui est petit et faible ne vaut rien, ni pour le ciel ni pour l'enfer. Vis en société, mais rappelle-toi que tu es seul. Écoute tout le monde, mais ne crois personne. Sois silencieux. Les maisons et les villes ne se construisent pas avec des paroles, mais avec de l'argent et des outils. » Il pouvait parler ainsi pendant des soirées entières, et je connaissais ses discours par cœur. Ses paroles me plaisaient assez, mais elles ne m'inspiraient pas entière confiance. Ce qui en découlait nettement, c'était que 2 puissances, Dieu et le monde, limitaient la liberté de l'homme. Assise à la fenêtre, grand-mère faisait de la dentelle. Le fuseau bourdonnait entre ses doigts agiles. Pendant un long moment, elle écoutait grand-père sans mot dire, puis soudain elle déclarait « Tout adviendra selon la volonté de la Sainte Vierge !»« Hein ?» criait grand-père. « Et Dieu, crois-tu que je l'oublie ? Je sais ce que c'est que Dieu, vieille bête ! Est-ce Dieu qui a mis les imbéciles sur la terre ? Hein ?» Il me semblait que personne au monde ne vivait aussi agréablement que les Cosaques et les soldats. Ils avaient une existence facile et joyeuse. Le temps était-il beau? Ils se rassemblaient en face de chez nous, de l'autre côté du ravin. Pareils à des champignons blancs sur la terre nue, ils se livraient à un jeu compliqué et intéressant. Agiles et forts dans leurs blouses blanches, ils couraient à travers champs, le fusil en main, disparaissaient dans le ravin, et tout à coup, à l'appel d'une trompette, ils surgissaient, et en criant « Hourra !» sous l'accompagnement grondeur des tambours, ils couraient su à notre maison, les baïonnettes dressées. Il me semblait qu'ils allaient soulever et éparpiller notre demeure comme une meule de foin. Moi aussi, je criais « Hourra !» Oubliant tout, je courais avec eux. Le battement ardent du tambour faisait naître en moi le désir passionné de détruire quelque chose, de démolir une palissade, de rosser un camarade. Au moment du repos, les soldats m'offraient du tabac. Ils me montraient leurs armes pesantes. Parfois, l'un ou l'autre dirigeait sa baïonnette contre mon ventre et criait d'une voix féroce pour plaisanter « Perçons la blatte !» La lame étincelait. Elle me paraissait vivante. Elle se tordait comme un serpent qui voulait mordre. C'était un peu effrayant, mais délicieux. Le tambour, un morduant, m'apprit à battre la peau d'âne de sa caisse. D'abord, il me tenait les poignets, les serrant à m'en faire crier, et glissait les baguettes entre mes doigts endoloris. « Frappe ! Un, deux, tram, ta, 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 tram. Frappe ! Doucement à gauche, fort à droite !» hurlait-il d'une voix menaçante en écarquillant ses yeux d'oiseau. Je courais les champs avec les soldats jusqu'à la fin de l'exercice, puis je les accompagnais à la caserne, à travers la ville, écoutant leurs chansons retentissantes, regardant les visages bienveillants qui tous me semblaient neufs comme des sous sortant de la frappe. Cette masse compacte de jeunes hommes, si fortement unis, s'écoulait gaiement par les rues, et elle attirait les sympathies et donnait l'envie de se plonger en elle, comme dans un fleuve. Ces gens n'avaient peur de rien. Ils considéraient le monde avec audace. Ils pouvaient tout vaincre. Ils pouvaient atteindre à tout ce qu'ils voulaient. Mais ils étaient, au demeurant, simples et bons. Un jour, au repos, un jeune sous-officier me donna une épaisse cigarette. « Tiens, elle est magnifique, je ne l'aurais offerte à personne. Mais toi, tu es un si brave garçon. » Je me mis à fumer. L'homme recula d'un pas, et soudain, une flamme rouge jaillit et m'aveugla en me brûlant les doigts, le nez et les sourcils. Une âcre fumée de soufre me faisait tousser et éternuer. Aveuglé et effrayé, je piétinai sur place. Les soldats faisaient cercle autour de moi et riaient bruyamment. Je m'en allais sous les huées et les coups de sifflet. Quelque chose claqua, comme le fouet d'un berger. Mes doigts brûlés me faisaient mal. Des larmes coulaient de mes yeux. Mais ce qui m'accablait le plus, ce n'était pas la souffrance. C'était la stupidité de cette plaisanterie, qui pouvait être dangereuse. Et pourquoi semblait-elle si divertissante à des gens, au fond, sans méchanceté? Je montai au grenier et j'y restai longtemps couché, me remémorant toutes les choses inexplicables et cruelles que je rencontrais si fréquemment sur mon chemin. Chapitre 11. Lorsque la neige commença à tomber, grand-père me conduisit de nouveau chez sa belle-sœur. « Ce n'est pas un mal pour toi, non ?» me dit-il. Il me semblait que durant cet été, j'avais beaucoup vécu, que j'étais devenu plus sage et plus vieux. Mais il me semblait aussi que chez mes patrons, l'ennui s'était accru encore en ces quelques mois. Chez eux, les indispositions, les indigestions provenant d'un excès de nourriture étaient tout aussi fréquentes. On se racontait toujours avec les mêmes détails le cours des maladies. Ma grand-tante priait toujours Dieu avec les mêmes menaces et la même méchanceté. La jeune patronne avait maigri à la suite de ses couches, mais elle se mouvait avec la même ampleur et la même importance que lorsqu'elle était enceinte. Quand elle cousait du linge pour les enfants, elle chantait éternellement la même chanson. Spiria, spiria, spiridon. Spiria, mon cher petit frère, je vais m'asseoir dans le traîneau. Spiria s'assied sur le rebord. Dès qu'elle me voyait pénétrer dans la pièce, elle s'arrêtait immédiatement et criait avec irritation « Que veux-tu encore ?» Je suis persuadée qu'elle ne connaissait aucune autre chanson que celle-là. Le soir, les patrons m'appelaient dans la salle à manger et m'ordonnaient de raconter comment tout se passait sur le bateau. Je m'asseyais près de la porte des cabinets et je commençais. Il m'était agréable d'évoquer cette autre vie au milieu de celle qu'on m'imposait. Je me laissais entraîner, j'oubliais mon auditoire. Mais pas pour longtemps. Les femmes n'avaient jamais été sur l'eau. Elles m'interrogeaient. « Mais enfin, quand même !» « C'est dangereux !» Je ne voyais pas ce que l'on pouvait craindre. « Et si tout à coup, à un endroit profond, le navire chavirait ?» Le patron riait aux éclats. J'avais beau expliquer que les bateaux ne coulaient pas toujours, je n'arrivais pas à convaincre les deux femmes. La vieille était persuadée que les bateaux n'étaient pas portés par l'eau, mais qu'il roulait avec des roues sur le fond de la rivière, comme les chars sur une route. « Comment pourraient-ils flotter, puisqu'ils sont en fer ? Est-ce que les haches peuvent flotter ?»« Les carafes ne s'enfoncent pas non plus dans l'eau. »« Quelle comparaison ! Une carafe, c'est petit, et c'est vide. » Quand je parlais de Smouri et de ses livres, on me regardait d'un air méfiant. La vieille assurait que seuls les imbéciles et les hérétiques composent des livres. « Et le livre des psaumes ? Et le roi David ? Le livre des psaumes est une écriture sacrée, et le roi David lui-même a demandé pardon à Dieu de l'avoir composé. Où est-ce écrit ? Dans le creux de ma main. Si je te prends par la peau du cou, tu le verras bien. » Elle sait tout, elle parle de tout avec assurance, et toujours brutalement. À la rue Tchotchorka, il y a un tatar qui est mort. Son âme est sortie par sa bouche. Elle était noire comme du goudron. « L'âme est esprit, » dis-je, mais elle clame avec mépris. « Celle même d'un tatar ? Imbécile !» La jeune femme a peur des livres, elle aussi. « C'est très mauvais de lire, surtout quand on est jeune, » décrète-t-elle. Je vivais dans un brouillard d'ennui abrutissant. Et pour m'en dégager, je m'efforçais de travailler le plus possible. La besogne ne me manquait pas. Il y avait deux petits-enfants dans la maison. Les nourrices n'agréaient jamais au patron qui en changeait constamment. Je devais donc soigner les bébés, laver les langes chaque jour, et une fois par semaine, j'allais rincer le linge à la source de la gendarmerie, où j'étais la risée des blanchisseuses. « Regardez cette lavandière en pantalon !» Parfois, elle m'exaspérait au point que je les battais avec une brassée de linge mouillé. Elle me rendait les coups avec usure, mais là au moins, c'était amusant et intéressant. La source de la gendarmerie coulait au creux d'un profond ravin qui, orienté vers l'Oka, séparait la ville d'une campagne appelée du nom d'un dieu antique. Yarilo. Dans ces champs, la bourgeoisie de la ville organisait parfois des divertissements. Grand-mère me racontait qu'au temps de sa jeunesse, le peuple croyait encore en Yarilo et lui offrait des sacrifices. On prenait une roue que l'on entortillait des toupes goudronnées. Avec des cris et des chants, on poussait la roue enflammée du haut de la pente et l'on regardait si elle arrivait jusqu'à l'Oka. Si elle y parvenait, le dieu Yarilo avait accepté l'offrande. L'été serait ensoleillé et fertile. Les blanchisseuses venaient pour la plupart de Yarilo. C'étaient toutes des commères, alertes et loquaces. Elles savaient tout ce qui se passait en ville. Leur bavardage était drôle sur les marchands, les fonctionnaires ou les officiers pour qui elles travaillaient. Laver du linge en hiver, dans l'eau glacée, est un travail de forçat. Les mains des blanchisseuses étaient gelées à tel point que la peau se fendait. Courbées sur l'eau, sous un vieil auvent délabré qui ne les protégeait ni contre la neige ni contre le vent, les femmes rinçaient le linge. Leur visage était injecté de sang et pincé par le gel. Le froid brûlait les doigts mouillés qui se raidissaient. Les larmes coulaient des yeux. Et pourtant, les lavandières continuaient à jacasser, se racontant l'une à l'autre diverses histoires, traitant tout et tous avec une bienveillance extraordinaire. Celle qui parlait le mieux était Nathalie Kozlovskaya, une femme qui avait dépassé la trentaine. Forte et fraîche, les yeux moqueurs, elle avait une langue agile et mordante. Elle jouissait de la considération de ses camarades. On la consultait, on la respectait, parce qu'elle était adroite à la besogne, qu'elle s'habillait correctement et qu'elle avait envoyé sa fille au lycée. Quand elle descendait la côte sur le sentier glissant, voûtée sous le poids de deux corbeilles pleines de linge mouillé, on l'accueillait gaiement. « Comment va ta fille ?»« Très bien, merci. Elle apprend bien, grâce à Dieu. »« Tu veux en faire une dame ?» Mais oui, certainement. D'où viennent-ils les patrons, ces fingles? Ils sortent tous de notre classe, de la misère du monde. D'où viendraient-ils sans ça? Plus on est savant, plus on a les mains longues et plus on peut prendre. Et celui qui peut prendre beaucoup, il peut être tranquille. Lorsque Dieu nous envoie sur la terre, nous sommes de stupides enfants. Il veut que nous revenions vieillards, instruits, donc il faut apprendre. Quand elle parlait, toutes les autres se taisaient et écoutaient avec attention ses propos convaincus. On la couvrait de louanges en son absence comme en sa présence. On s'étonnait de son endurance, de son intelligence, mais personne ne l'imitait. Avec des tiges de bottes, elle s'était fabriqué des manches de cuir fauve, ce qui lui permettait de ne pas avoir les bras nus jusqu'au coude et de ne pas mouiller son corsage. Tout le monde s'extasia sur cette invention, mais aucune des bonnes femmes n'eut l'idée de suivre cet exemple. Quand je le fis, on se moqua de moi. Toutes ces conversations sous le clapotis pleureur de l'eau, sous le battement des torchons mouillés, dans une gorge boueuse, au fond d'un ravin que la neige elle-même n'arrivait pas à couvrir de son tapis immaculé, tous ces propos obscènes sur le mystère d'où sortent les individus et les races, faisaient naître en moi un dégoût craintif qui éloignait ma pensée et mes sentiments de ces intrigues, partout si répandues que j'en étais excédée. Les romans qui insistent sur ces grossièretés ne sont à mes yeux que des histoires malpropres et répugnantes. Cependant, la vie était infiniment plus attrayante au ravin, parmi les blanchisseuses, dans les cuisines, chez les ordonnances, au sous-sol, avec les terrassiers, que chez mes patrons, où la monotonie des paroles, des idées et des faits m'accablait d'ennui. Les patrons vivaient dans un cercle étroit. Mangeaille, maladie et sommeil, préparatifs fiévreux et désordonnés pour le manger et le dormir. Ils parlaient du péché et de la mort qui leur inspiraient une peur effroyable. Ils s'agitaient comme des grains autour de la meule, s'attendant sans cesse à être écrasés. Aux heures de loisir, j'allais au hangar fendre du bois pour rester seul avec moi-même. Mais je n'y réussissais pas souvent. Les ordonnances survenaient et me racontaient la vie de la cour. Hier, Mokine et Sidorov, surtout, venaient souvent au hangar. Le premier, un paysan de Kalouga, grand et voûté, avait la tête petite, des yeux vagues et un corps solidement charpenté. Il était paresseux et d'une bêtise agaçante. Gauche et lent à se mouvoir, quand il voyait une femme, il mugissait et se penchait en avant comme s'il voulait tomber à ses pieds. Tout le monde dans la cour était stupéfié de la rapidité de ses conquêtes parmi les cuisinières et les femmes de chambre. On l'enviait et on le craignait à cause de sa force herculéenne. Sidorov, qui venait de Toula, était chétif, osseux et toujours triste. Il parlait à mi-voix, toussait avec précaution, et aimait à regarder dans les coins obscurs. Ses yeux avaient des lueurs craintives. Soit qu'il vous murmurât quelque chose, ou qu'il restât taciturne sur son banc, il fixait invariablement le coin le plus obscur. « Qu'est-ce que tu vois ?»« Ah, peut-être qu'une souris va sortir. J'aime les souris. Elles arrivent là, tout doucement. » J'écrivais les lettres des ordonnances pour leur famille, pour leur bien-aimé, et j'y prenais plaisir. Mais c'est à Sidorov surtout que j'aimais à servir de secrétaire. Chaque samedi, régulièrement, il envoyait un message à sa sœur qui habitait tout là. Après m'avoir invité à entrer dans sa cuisine, il s'asseyait à la table à côté de moi et se frottait vigoureusement la tête avec la paume de ses deux mains. Puis il me chuchotait à l'oreille. « Eh bien, vas-y. D'abord, comme ça se doit, les salutations. Ma chère petite sœur, que le ciel vous conserve pendant de longues années. Écris ce qu'il faut. Continue. J'ai bien reçu le rouble, mais je n'en ai pas besoin et je te remercie. Je n'ai besoin de rien, nous vivons bien.
Nous ne vivons pas bien du tout, nous sommes traités comme des chiens. Mais n'écris pas ça, écris que tout est pour le mieux.
Elle est encore jeune, elle n'a que 14 ans. À quoi bon la tourmenter pour si peu de choses? Et maintenant, écris comme on te l'a appris.
Il se penchait sur moi de tout son flanc gauche. Son haleine forte et chaude soufflait dans mon oreille. Il chuchotait en insistant.
« Dis-lui qu'elle ne permette pas au garçon de la prendre au sein ou ailleurs, ni de l'embrasser. Écris-lui. Si quelqu'un te parle d'amour, ne le crois pas. Il veut seulement te tromper, te faire souffrir. »
Il s'efforçait de réprimer sa toux, et son visage terreux s'injectait de sang. Ses joues se gonflaient, des larmes brillaient à ses yeux. Il s'agitait sur le banc et me poussait.
« Tu me gênes !»«
Ça ne fait rien, écris !»«
Surtout, ne crois pas les patrons, ils te tromperont du premier coup. Le tien te dira de belles choses, ils savent tous parler. Et si tu l'écoutes, tu t'en vas tout droit à la maison publique. Si tu économises un rouble, donne-le au pop, il te le mettra de côté si c'est un brave homme. Ou, mieux encore, enterre-le sans qu'on te voie, et souviens-toi bien de l'endroit. »
C'était très mélancolique d'entendre ce chuchotement étouffé par le sifflement du ventilateur de fer blanc ménagé dans le vasistas. Je regarde la gueule noire du fourneau, l'armoire à vaisselle souillée par les mouches. La cuisine est indiciblement sale, infestée de punaises et tout imprégnée d'une âcre odeur de graisse brûlée, de pétrole et de fumée. Sur le poêle, on entend les blattes qui se promènent. Le désespoir m'envahit, et j'ai tellement pitié de ce soldat et de sa sœur que j'en pourrais pleurer. Est-il possible, est-il permis de vivre de la sorte? J'écris, sans plus écouter le murmure de Sidorov. J'écris que la vie est ennuyeuse et humiliante. Il soupire et m'encourage.
« Tu en mets beaucoup, merci. Elle saura au moins ce qu'elle doit craindre. »«
Il ne faut avoir peur de rien, » dis-je avec irritation. « Quoique, en réalité, j'ai peur moi-même de bien des choses. »
Le soldat rit et tout saute. « Tu en as de bonnes. Et les maîtres, et Dieu, et tant d'autres puissances, faudrait-il ne pas en avoir peur ?»
Quand il recevait une lettre de sa sœur, il s'alarmait et me suppliait.
« Lis vite, je t'en supplie !»
Et il m'obligeait à relire à 3 reprises une missive en pâte de mouche, si courte et si vide que j'en étais humilié. Une fois, les soldats me racontèrent une histoire qui m'émut profondément. Dans l'un des appartements, logeait un étranger paisible et modeste, le coupeur du plus grand tailleur de la ville. Il n'avait pas d'enfant, et sa femme lisait jour et nuit. Dans ce pâté de maisons bruyantes où s'entassaient les ivrognes, le couple vivait ignoré et silencieux, ne recevant pas de visite, n'allant nulle part, sauf au théâtre le dimanche. Dès le matin, jusque tard dans la soirée, l'homme était à son travail. La femme se rendait 2 fois par semaine à la bibliothèque. Je la voyais souvent s'acheminer à petits pas, en vacillant, comme si elle boitait le long de la chaussée. Une courroie maintenait ses livres. Elle était ingénue, candide et agréable à voir, telle une petite lycéenne. Elle portait des gants. Avec son visage d'oiseau, aux petits yeux mobiles, elle me paraissait aussi jolie qu'une statuette de marbre décorant un miroir. Les soldats assuraient qu'il lui manquait une côte du côté droit. C'est pourquoi elle sautillait en marchant. Mais cette infirmité me toucha. Elle la différenciait des autres dames de la cour, femmes d'officiers. Celles-ci, malgré leur voix bruyante, leur toilette voyante et leur haute tournure, me paraissaient désuètes, comme si on les avait longtemps oubliées dans un grenier obscur, parmi toutes sortes d'objets inutiles. Dans la cour, On considérait la petite coupeuse comme un peu folle. On disait qu'elle avait perdu la raison à force de lire et qu'elle ne pouvait plus s'occuper de son ménage. Le mari allait lui-même faire les emplettes au marché. Il commandait les repas à la cuisinière, une énorme femme maussade, dont l'un des yeux était rouge et toujours humide, tandis qu'une étroite fente rose remplaçait l'autre œil. « Quant à la dame, affirmait-on, elle ne savait pas distinguer le veau du mouton. Une fois même, oh, honte, elle avait acheté du réfort pour du persil. » Les ordonnances me racontèrent que les officiers s'amusèrent à un jeu de mauvais goût avec la petite coupeuse. Tous les jours, tantôt l'un, tantôt l'autre, lui remettaient un billet parlant d'amour, des souffrances du soupirant et de la beauté de la dame. La petite coupeuse répondait, demandait qu'on la laissât en paix. Elle regrettait de leur causer du chagrin et priait Dieu pour qu'on ne l'aimât plus. Les officiers lisaient ses réponses tous ensemble. Ils riaient de la femme et composaient sur le champ une nouvelle déclaration au nom de l'un de leurs camarades. Les ordonnances, en me racontant l'histoire, riaient, eux aussi, et injuriaient la coupeuse. « Quelle stupide buse, cette boitillonne !» disait Yermokine de sa voix profonde. Sidorov approuvait doucement. « Les femmes veulent toutes qu'on les flagorne !» Je ne pouvais croire que la coupeuse sût à quel point on se moquait d'elle. Je résolus de l'en informer. Guettant un moment où sa cuisinière était à la cave, je montai vite par l'escalier de service jusqu'à l'appartement de la petite femme. Je pénétrai dans la cuisine, elle était vide. J'entrai alors dans une chambre. La coupeuse était assise à une table, tenant d'une main une lourde tasse dorée et de l'autre un livre ouvert. Effrayée, elle serra le livre contre sa poitrine et se mit à crier d'une voix étouffée « Qui est-ce ? Qui es-tu ?» Je me mis à parler très vite, en phrases entrecoupées, pensant qu'elle allait me jeter à la tête soit le livre, soit la tasse. Elle était assise dans un grand fauteuil violet, vêtue d'une robe de chambre bleue, garnie au bas d'une frange et d'une dentelle au col et aux manches. Ses cheveux roux et ondulés étaient répandus sur ses épaules. Elle ressemblait à un ange sur le portail du sanctuaire. Appuyée au dossier du fauteuil, elle me regardait avec des yeux ronds, d'abord irrités, puis étonnés et souriants. Quand j'eus dit tout ce que je savais, je perdis courage et je fis volte-face vers la porte. Elle me cria « Attends !» Posant la tasse sur un plateau et jetant le livre sur la table, elle joignit les mains et se mit à parler d'une voix profonde, d'une voix de femme faite. « Quel drôle de gamin tu es ! Approche !» J'obéis avec circonspection. Elle prit ma main qu'elle caressa de ses petits doigts froids et elle demanda. « Personne ne t'a envoyé me raconter cela, bien vrai ? Allons, je vois que c'est de ton propre chef. » Lâchant ma main, elle ferma les yeux et dit tout bas, entraînant les mots. « C'est de cela que parlent ces malpropres soldats. »«
Vous devriez déménager, » conseillai-je gravement.
« Pourquoi ?
Ils vous causeront des ennuis. »
Elle eut un rire agréable, puis elle demanda. « Tu as été à l'école ? Tu aimes à lire ?
Je n'ai pas le temps.
Si tu aimais à lire, tu trouverais bien le temps.
Eh bien, je te remercie. »
Elle me tendit ses doigts qui tenaient une pièce d'argent. J'avais honte de prendre cette chose froide, mais je n'osais la refuser. En m'en allant, je la posai sur un des piliers de la rampe de l'escalier. J'emportai de cette femme une impression profonde, nouvelle pour moi. Il me semblait qu'une aube s'était levée, et je vécus pendant quelques jours dans la joie, en me rappelant la vaste pièce et la coupeuse en robe bleue, pareille à un ange. Autour d'elle, tout était d'une beauté inconnue. Un somptueux tapis doré s'étendait sous ses pieds. À travers les vitres argentées des fenêtres, la journée hivernale pénétrait jusqu'à elle, comme pour se réchauffer. J'eus envie de la voir encore une fois. Qu'arriverait-il si j'allais lui demander un livre.
Je retournai chez elle, et je la revis au même endroit, un livre à la main. Mais elle avait un œil enflé et la joue bandée d'un mouchoir jaune. En me donnant un livre relié de noir, la coupeuse murmura quelques paroles indistinctes. Je m'en allai tout triste, emportant le livre qui sentait la créosote et les gouttes d'anis. Je le cachai au grenier, après l'avoir enveloppé dans une chemise propre et du papier, de peur que les patrons ne le voient et ne le détériorent. Le samedi, comme j'étendais le linge au grenier, je me rappelai le livre. Je le pris et je lus les premières lignes. Les maisons sont comme les gens, chacune a sa physionomie. Cette phrase me surprit tant elle était juste. Je continuai ma lecture, debout près de la lucarne, jusqu'à ce que je fusse transi de froid. Le soir, mes patrons étant partis aux vêpres, je descendis le livre à la cuisine et je me plongeai dans les pages fripées et jaunâtres, telles des feuilles d'automne. Elles m'emportèrent dans une autre vie, vers des noms et des images inconnues, me montrant des héros au cœur noble, de sombres coquins, différents des gens habituels dont j'étais rassasié. C'était un roman de Xavier de Montépin, long comme tous les romans de cet auteur, riche en personnages et en aventures, et représentant une vie intense que je ne connaissais pas. Tout dans ce roman était d'une simplicité et d'une netteté surprenantes, comme si une sorte de lumière, cachée entre les lignes, éclairait le bien et le mal, m'aidait à aimer et à haïr, et m'obligeait à me passionner pour la destinée des gens qui y grouillaient. Du coup, je ressentis l'ardent désir de secourir l'un, de créer des obstacles à l'autre, oubliant que cette vie qui se révélait soudain à moi était entièrement factice. J'oubliais tout dans les péripéties de la lutte, absorbé par la joie à une page, par le chagrin à une autre. J'étais si profondément plongé dans la lecture que lorsque j'entendis résonner la sonnette à la porte d'entrée, je ne saisis pas tout de suite ce que cela signifiait. La bougie était presque entièrement consumée. Le chandelier que j'avais nettoyé le matin était rempli de suif. La veilleuse de la lampe des icônes, que je devais entretenir, avait glissé de son support et s'était éteinte. Je m'affairai dans la cuisine, essayant de cacher les traces de mon délit. Je glissai le livre sous le poêle et je remplis vivement la lampe des icônes. La bonne des enfants accourut de la chambre. « Es-tu sourd ? On sonne !» Je me précipitai vers la porte d'entrée. « Tu dormais ?» me demanda le patron avec sévérité. Sa femme, tout en montant lourdement l'escalier, se plaignait d'avoir pris froid à cause de moi. La vieille grommelait aussi. Elle vit immédiatement que la bougie était consumée. Elle se mit à m'interroger. « Qu'avais-je fait ?» Je gardai le silence, effondré comme si j'étais tombé de très haut, et craignant qu'elle ne découvrît le livre. Elle criait que je mettrais le feu à la maison. Le patron et sa femme vinrent pour souper. Elle recommença ses jérémiades. « Regardez, il a brûlé toute la bougie. Il mettra le feu à la maison. » Tout en soupant, ils me mirent à la torture, rappelant toutes mes peccadilles volontaires et involontaires, jurant que j'allais à ma perte. Mais je savais déjà qu'aucun des quatre ne parlait par méchanceté ni par bienveillance, mais qu'ils jasaient tous par ennui. Il me paraissait étrange de les voir aussi vides et ridicules en comparaison des personnages des livres. Quand ils eurent fini de manger, alourdis par la nourriture, ils allèrent se coucher. La vieille importuna d'abord Dieu par ses récriminations et ses plaintes, puis elle grimpa sur le poêle et se tut. Alors je me levai. Je sortis le livre de sa cachette et m'approchai de la fenêtre. Mais les caractères étaient trop fins pour être lisibles. J'avais cependant une indicible envie de lire. Prenant sur un rayon une casserole de cuivre, j'essayai de réfléchir la lumière de la lune sur les pages, mais sans y réussir.
Il faisait encore plus sombre. Alors je montai sur le banc, dans le coin où étaient les icônes, et je me mis à lire debout, à la clarté de la veilleuse. Fatigué, je m'endormis sur le banc. Je fus réveillé par les cris et les coups de la vieille. Elle frappait durement mes épaules avec le livre dont elle s'était emparée. En chemise, les pieds nus, elle secouait avec furie sa tête rousse, écarlate de colère. Sur la soupente, Victor se mit à brailler. « Voyons, maman, ne criez pas comme ça, il n'y a pas moyen de vivre. »«
Le livre est perdu, ils vont le déchirer, » pensais-je.
Au thé du matin, on me jugea. Le patron m'interrogea avec sévérité. « Où as-tu pris ce livre ?» Les femmes criaient et s'interrompaient l'une l'autre. Victor flairait les pages avec méfiance et disait « Ça sent le parfum, ma parole. » Apprenant que le livre était la propriété du prêtre, ils l'examinèrent tous encore une fois, étonnés et mécontents de ce qu'un prêtre lut des romans. Cependant, ils en furent un peu tranquillisés. Le patron ne m'en répéta pas moins à plusieurs reprises qu'il était dangereux et mauvais de lire.
« Tu vois, ces liseurs de livres, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait sauter des rails. Ils voulaient tuer notre... »
Apeuré et en colère, sa femme lui cria
« Tu es fou ! Qu'est-ce que tu lui racontes ?»
Je portai le livre à Sidorov et je lui racontai toute l'histoire. Sans mot dire, il le prit, ouvrit une petite malle, en sortit un essuie-main propre dont il enveloppa le roman, cacha le tout dans la malle et me donna le conseil de ne pas obéir.
« Viens ici pour tes lectures, je ne le dirai à personne. » Si tu viens quand je n'y suis pas, la clé est pendue derrière l'icône. Ouvre la malle et lis. »
L'attitude de mes patrons donna immédiatement au livre la valeur d'un mystère important et terrible. Le fait est que des liseurs de livres avaient, je ne sais où, fait sauter des rails pour tuer je ne sais quel personnage qui ne m'intéressait pas, mais je me rappelais la question du prêtre à ma confession. La lecture du collégien dans le sous-sol, les paroles de Smoury sur les livres qu'il fallait lire, et je me rappelais aussi ce que grand-père racontait sur les francs-maçons, magiciens noirs, et comment on les envoyait en Sibérie. Je me sentais sur le seuil d'un très grand mystère, et je vivais comme un halluciné. J'aurais voulu acheter le livre. Je craignais qu'il ne se perdît chez le soldat ou que celui-ci ne l'abîmât. Que dirais-je alors à la coupeuse? Et la vieille, veillant soigneusement à ce que je ne pusse m'échapper, ne cessait de me harceler. « Bouquineur! Les livres, ça ne sert qu'à apprendre la débauche. Vois donc ce qu'elle a fait, celle qui dévore les livres. Elle est incapable d'aller elle-même au marché. Mais en revanche, elle reçoit les officiers en plein jour. Elle a fait la noce avec eux. Je le sais. » J'aurais voulu crier « Ce n'est pas vrai, elle ne fait pas la noce !» Mais j'avais peur de prendre la défense de la coupeuse, si la vieille allait deviner que le livre lui appartint. Pendant quelques jours, je fus atrocement malheureux. J'étais à la fois distrait, angoissé et alarmé. Je ne pouvais plus dormir, tremblant pour monter pain. Un matin, la cuisinière de la coupeuse m'arrêta dans la cour et me dit « Rapporte le livre !» Je choisis un moment après le dîner, pendant que mes patrons faisaient la sieste, et je montai, accablé et confus, chez la coupeuse. Elle me reçut comme je l'avais vue la première fois. Seulement, elle était vêtue autrement. Elle portait une jupe grise, un corsage de velours noir et une croix de turquoise au cou. Elle ressemblait à une femelle de Bouvreuil. Lorsque je lui dis que je n'avais pas eu le temps de lire le roman et qu'on m'interdisait la lecture, la mortification et aussi la joie de voir cette femme me remplirent les yeux de larmes. « Fi, quels stupides gens !» dit-elle en fronçant ses fins sourcils. « Et pourtant, ton patron a l'air intéressant. Ne te chagrine pas, je réfléchirai. J'écrirai à ton patron. » J'eus peur de cette perspective. Je lui racontai que j'avais menti et dis au patron que c'était le prêtre qui m'avait prêté le livre et non pas elle. « Non, non, n'écrivez pas, suppliai-je. Ils se moqueront de vous, ils diront des méchancetés. Car personne ne vous aime dans la maison. Tout le monde vous tourne en ridicule. On dit que vous êtes un peu toqué et qu'il vous manque une côte. » À peine avais-je parlé que je compris que j'avais dit des choses inutiles et outrageantes pour elle. Elle se mordit la lèvre et se frappa la hanche. Embarrassée, je baissai la tête. J'aurais voulu m'enfoncer sous terre. Mais la coupeuse se laissa choir sur une chaise et se mit à rire gaiement en répétant « Oh, que c'est bête! Que c'est bête !»« Mais que faire ?» se demanda-t-elle en me regardant avec attention. Puis elle ajouta en soupirant « Tu es bizarre, très bizarre, mon garçon. » Je jetai un coup d'œil dans le miroir suspendu à côté d'elle. Je vis un visage au nez épaté, aux pommettes saillantes, au front barré par une grande meurtrissure. Des cheveux ébouriffés, qui n'avaient pas été taillés depuis longtemps, se dressaient de tous côtés en mèches roides. C'était ce qu'on appelait un garçon très bizarre ? « Tu n'as pas pris l'argent que je t'ai donné l'autre fois. Pourquoi ?»« Je n'en ai pas besoin. » Elle poussa un soupir. « Eh bien, que faire? Si on te permet de lire, viens, je te donnerai des livres. » 3 livres étaient posés sur la tablette du miroir. Celui que j'avais rapporté était le plus épais. Je le regardais avec tristesse. La coupeuse me tendit sa petite main rosée. « Eh bien, adieu ?» J'effleurai sa main avec précaution et je sortis précipitamment. Chapitre 12. Je suis à la fois amusée et attristée quand je pense combien d'humiliation, de mortification et d'inquiétude me valut ma passion toujours grandissante pour la lecture. Les livres de la coupeuse me paraissaient extrêmement coûteux. Et, de peur que la vieille patronne ne les brûlât dans le poêle, je m'efforçais de les oublier. Je me mis à prendre de petites brochures à la boutique où j'allais acheter le pain pour le thé du matin. L'épicier était un gaillard antipathique, toujours suant, aux lêvres charnues, au visage blême et terne, couvert de taches et de cicatrices scrofuleuses, aux yeux blancs, aux mains bouffies, aux doigts courts et maladroits. Le soir, sa boutique servait de lieu de réunion aux adolescents et aux filles légères de la rue. Le frère de mon patron venait là presque tous les soirs pour boire de la bière et jouer aux cartes. On m'envoyait souvent le chercher à l'heure du souper, et plus d'une fois, je vis dans l'arrière-boutique exiguë la femme un peu niaise de l'épicier assise sur les genoux de Victor ou d'un autre. Le mari n'avait pas l'air de s'en émouvoir. Il ne se fâchait pas davantage quand sa sœur, qui l'aidait dans son commerce, se laissait embrasser par les chantres, les soldats et tous ceux qui en avaient envie. Il n'y avait pas beaucoup de marchandises dans le magasin, ce que l'épicier expliquait en disant qu'il venait seulement d'ouvrir boutique, qu'il ne s'était pas encore organisé. Cependant, il était là depuis l'automne. Il montrait aux clients, aux visiteurs, des cartes postales obscènes et permettaient aux amateurs de copier les vers indécents qui les accompagnaient. Je lisais des livres sans valeur et je payais 1 copec pour la location d'un volume. C'était cher et je n'en retirais aucun plaisir. Ce qui me plaisait le mieux, c'était la vie des saints. J'avais foi en ces récits qui parfois m'émouvaient profondément. Les martyrs me rappelaient tous la bonne affaire, les saintes, ma grand-mère, et les ermites, mon grand-père à ses bonnes heures. Je lisais au hangar quand j'allais fendre le bois, ou au grenier, ce qui était également incommode. Parfois, quand le livre m'intéressait ou qu'il fallait le finir à la hâte, je me levais la nuit et j'allumais la bougie. Mais la vieille patronne remarqua que les bougies diminuaient fort vite, et elle se mit à les mesurer avec une brindille de bois. Quand elle découvrait le matin qu'il manquait 3 centimètres à la bougie, ou si, trouvant la bûchette, je ne la cassais pas à la longueur voulue, c'était un affreux vacarme dans la cuisine. Victor, révolté, clamait du haut de la soupente « Finissez donc de crier, maman, il n'y a pas moyen de vivre. Évidemment, il brûle la bougie parce qu'il lit. Il prend des brochures chez l'épicier, je le sais. Allez donc voir au grenier. » La vieille s'empressa d'y monter. Elle trouva je ne sais quel livre et elle le déchira. J'employai toutes sortes de ruses. La vieille découvrit à plusieurs reprises mes livres qu'elle brûla et je me trouvai devoir à l'épicier la grosse somme de 47 copecs. Celui-ci exigeait l'argent et me menaçait de se payer sur l'argent des patrons un jour que je viendrai lui acheter du pain. « Que t'arrivera-t-il alors ?» me demandait-il en ricanant. Il m'était indiciblement antipathique. Il le sentait sans doute, car il se plaisait à me tourmenter par toutes sortes de menaces avec un plaisir évident. Quand je pénétrais dans sa boutique, son visage tacheté s'élargissait et il s'informait d'un ton aimable. « Tu apportes l'argent ?»« Non. » Il se renfrognait et fronçait les sourcils. « Hein ? Faut-il que je me plaigne au juge de paix pour qu'on t'envoie dans une colonie pénitentiaire ?» Comprenant qu'il ne plaisantait pas, je résolus de voler pour me débarrasser de lui. Le matin, quand je brossais les habits du patron, j'entendais tinter dans les poches de son pantalon des pièces d'argent qui, parfois, tombaient et roulaient sur le sol. Un jour, l'une d'elles glissa par une fente jusque dans le bûcher sous l'escalier. J'oubliais de le dire, et je n'y pensais qu'en trouvant 20 copecs parmi les bûches, quelques jours plus tard. Quand je les rendis au patron, sa femme lui dit « Tu vois, il faut compter ton argent si tu en laisses dans tes poches. » Mais il répondit en me souriant « Il ne vole pas, j'en suis persuadée. »